Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
OK, bienvenue à Toute la classe, une initiative du Conseil scolaire Viamonde. Depuis 2 ans, les conseillers pédagogiques et en fait toute l'équipe des services pédagogiques travaillent de près avec Escouade Édu pour travailler nos habiletés de coaching. Les interventions de Marius Bourgeois de Escouade Édu ont été l'étincelle qui ont mis au monde le projet de Toute la classe. Alors, nous voulions partager avec vous l'expertise et leur passion contagieuse. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de ce que vous faites?
Vas-y, Marius, on te laisse la parole.
Bonjour, puisque tu nous as nommé, je m'appelle Marius. Merci beaucoup, les filles, de nous inviter à faire partie de toute la classe. C'est toujours un privilège de côtoyer nos collègues de partout en province, donc on est content de pouvoir travailler avec vous, de collaborer avec vous. Puis oui, dans notre formation Coach à 360, à la fin de ça, je vous avais invité à rendre votre pensée visible, je pense. Hein? Je pense que c'était ça les mots qu'on avait utilisés. Comment est-ce qu'on peut rendre notre pensée visible? Comment on peut élargir l'influence ou l'impact qu'on peut avoir dans notre milieu, chez des gens peut-être qu'on ne rencontrera pas, donc les gens qui écoutent toute la classe, ce n'est pas nécessairement des gens que vous allez rencontrer en personne. Donc, ça vous permet de rejoindre plus de gens, puis je trouve ça fantastique. Donc, je m'appelle Marius, je suis un des membres d'Escouade Édu. On se considère tous leaders Escouade Édu, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je viens du système d'éducation de l'Ontario, j'ai été enseignant, conseiller pédagogique, puis directeur adjoint et leader pédagogique. Donc, c'est un petit peu, là, en gros, qui je suis comme personne.
Bonjour, moi, c'est Marie-Andrée Ouimette, aussi leader avec l'équipe Escouade Édu. Un peu à mon sujet, j'ai été enseignante 12 ans de temps à l'école secondaire catholique La Citadelle à Cornwall, où j'enseignais l'éducation physique. Un petit peu de tout, sauf les maths, j'aime le mentionner, et conseillère en orientation dans mes dernières années. Ensuite, j'ai fait la transition pour devenir conseillère pédagogique au CSDCEO, le Conseil scolaire de l'Est ontarien. Et les 2 dernières années, j'ai été conseillère pédagogique avec l'équipe tactique du CFORP dans l'Est ontarien. Et depuis septembre dernier, j'ai pris le saut, me suis lancée dans le vide avec 2 personnes que je considère mes mentors et des collègues extraordinaires qui sont là avec moi aujourd'hui avec Escouade Édu.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Hunter, je suis aussi d'Escouade Édu, n'est-ce pas? moi, je suis enseignant de formation aussi, mais c'est une deuxième carrière pour moi, l'enseignement. J'ai travaillé dans le monde industriel, comme formateur industriel partout dans l'Est du Canada pendant 10 années. Puis j'adorais l'aspect formation. Donc, après 10 ans dans ce domaine-là, je suis allé faire mon bac en enseignement, puis je suis devenu enseignant au secondaire. J'ai enseigné différentes matières, puis j'ai enseigné aux adultes aussi. Puis dans les 2 dernières années, avant de fonder Escouade Édu, j'étais conseiller pédagogique pour les élèves en difficulté au Conseil scolaire catholique de l'Est ontarien. J'accompagnais 30 d'écoles à intégrer la technologie d'aide, entre autres, puis à essayer de trouver des stratégies pour mieux intégrer les élèves en difficulté dans les classes régulières. Donc, on a décidé, Marius, moi et Marie-Andrée, de fonder Escouade Édu pour justement avoir une espèce d'impact un peu plus grand, puis avoir un petit peu plus de... J'ai le mot « reach » qui vient dans ma tête, mais vraiment...
On se pose cette question-là tout le temps.
Oui, c'est ça. Avoir un rayonnement plus grand, puis avoir une influence justement sur plus de gens, puis c'est le fun. Après 1 an, on est en mesure de dire que c'est arrivé, donc c'est vraiment le fun.
C'est vraiment intéressant. Votre CV est vraiment long et large, puis c'est vraiment tout un sac d'expérience, puis on est vraiment, vraiment chanceuse de discuter avec vous ce matin. Je pensais que je vous connaissais, mais là, je ne vous connaissais pas du tout. Mais
Attends, ça fait juste 4 minutes, là.
Ouais.
En gros, on entend beaucoup « Escouade et Dieu », puis c'est quoi « Escouade et Dieu »
Oh. Vas-y,
on ne le sait pas.
Moi, c'est ça.
On se regarde toujours les trois quand on nous pose cette question-là. Hein?
Ben, Escouade et Dieu, je pense, là, si on regarde un petit peu nos discussions dans les dernières semaines, parce que c'est le temps de l'année où on se projette dans l'année qui s'en vient, là, même si les vacances s'en viennent. Escouade et Dieu, je dirais que c'est une posture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On ne l'a jamais dit le même. C'est une posture, tu sais, c'est être au service de l'autre, mais c'est aussi être au service de l'autre pour amener l'autre personne à devenir la meilleure version de soi, d'elle-même, tu sais. Donc, on veut amener le changement positif en éducation, puis notre focus, c'est sur les personnes. Oui, on parle de stratégie, oui, on parle de moyens, oui, on parle de processus, puis de pratiques gagnantes, les données probantes, tu sais, tout ça, c'est important, mais on met vraiment l'accent sur les personnes, puis on essaie d'amener les gens à mieux comprendre comment ça marche, ça, être une personne en développement. Puis on voit pas tous les choses de la même façon. Je pense que c'est ça qui amène la richesse, mais aussi la difficulté en leadership. Donc, ça nous allume pas mal de parler de la face cachée de la réussite en éducation.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Marius, ça me fait penser à l'impact que vous avez eu sur nous trois ici dans la salle. Comme Mylène vient de dire, c'est vraiment grâce à votre encouragement puis la motivation que nous avons non seulement commencé à parler de ce projet de podcast, mais que nous l'avons fait pour de vrai.
Oui, oui. Si je peux ajouter à Escouade et Dieu, si vous visualisez un peu notre logo.
Si vous le googlez, là, puis vous écoutez ce podcast, allez sur notre site web, vous allez le voir, le logo.
Le logo, ben l'escouade, hein, c'est une équipe. On a choisi ce mot-là parce que ça vient un peu du monde militaire, mais c'est pas ça du tout notre approche. Mais l'idée, ouais. L'idée, c'est que l'escouade, c'est une équipe qui travaille ensemble pour faire avancer les choses puis mettre en valeur l'équipe. À la limite, plus que les individus. C'est vraiment la force d'une équipe. Puis,
ouais.
Et Dieu, si vous regardez le logo, il est dans une boîte parce que en éducation, on est très, très conscient qu'il y a des contraintes. On a des choses à faire, des bulletins à remettre. Il y a des rencontres de
des
parents.
Comptes, des comptes à rendre.
Ouais,
c'est normal.
Il y a tout ça qui est, on va dire, on est pris avec ça, mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut innover là-dedans, puis est-ce qu'on peut s'épanouir là-dedans? Puis quand on regarde le logo, il y a trois petits bonhommes autour de la boîte qui s'épanouissent ou qui sortent de cette boîte-là en étant grandis. Puis, donc, c'est un peu ça, c'est une équipe qui aide les gens à s'épanouir dans ces contraintes-là. Puis si on regarde les couleurs, ben c'est les couleurs de base en impression, donc le cyan, le magenta et le jaune. Puis l'idée, c'est de revenir à la base. Puis comme Marius le disait si bien tantôt, on aime ça revenir à l'humain, revenir aux personnes, puis vraiment travailler sur soi-même. Donc, c'est un peu ça, l'escouade et Dieu, l'idée derrière notre logo qui représente vraiment notre vision des choses.
Ouais. C'est drôle parce que tantôt, lorsque vous parlez de votre logo, tout le monde, on s'est tous regardés sur nos portables parce qu'on a chacun le collant. Puis après ça, on s'est rendu compte non, c'est juste Coaching 360, alors c'est le temps que vous revenez pour nous donner d'autres collants.
Oui! Mylène va avoir la chance d'en avoir un probablement cet été.
Exactement. Elle va venir vous voir cet été.
On t'en donnera des plus pour que tu puisses en ramener à ta gang.
Ouais. Dites-leur pas, par exemple, comme ça, si je leur donne pas, ils sauront pas.
C'est bon.
Bon. Alors, le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est on veut parler un petit peu de la zone de confort. Alors, ici, au service pédagogique, au Conseil scolaire Viamonde, on parle souvent que la magie se produit hors de la zone de confort. Alors, je vous laisse la parole. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est le cas?
Bien, moi, j'aime beaucoup parler de zone de confort. J'ai même sorti de ma zone de confort ce matin en faisant une séance d'entraînement qui me rendait très mal à l'aise. Donc, la zone de confort, c'est à tous les jours qu'on, qu'on peut en sortir. La magie, pourquoi il y a de la magie qui se passe quand on sort de notre zone de confort, c'est qu'on sort des sentiers battus, on prend un risque. Mm-hmm. Et puis, souvent, la magie qui se passe en réalité, c'est qu'on réalise que c'était pas si pire que ça. Que souvent, la fameuse zone de confort et en sortir, la pire partie, c'est d'attendre d'en sortir. C'est de voir qu'il faut que j'en sorte et que ça me rend inconfortable. Mais du moment que je prends le saut, si c'est en parachute, si c'est d'essayer une petite stratégie dans ma salle de classe, si c'est de lâcher le contrôle puis d'en donner un petit peu plus aux élèves, du moment que je prends ce saut-là, la première chose qui se passe, c'est la magie de voir que personne n'est mort, on avance. Puis elle, c'était pas si pire que ça, c'était le fun. Mm. Puis j'ai le goût de le réessayer encore. C'est ça la magie de sortir de sa zone de confort. Puis naturellement, on grandit là-dedans. Il y a de la croissance qui se passe.
Il y a le mot possibilité aussi qui vient avec ça. Des fois, quand on reste dans nos pantoufles, on voit pas les possibilités, mais on voit pas où on peut aller. Puis des fois, ça prend ça de sortir de sa zone de confort pour juste être capable de voir c'est quoi. Où on peut aller, c'est quoi qu'on peut atteindre comme objectif.
Oui.
Donc, cette idée de possibilité est vraiment importante pour moi.
Ouais. Moi, comme accompagnateur, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe tactique avec Marie-André il y a quelques années. Puis, moi, ce que j'ai constaté, puis encore aujourd'hui avec Esquad Edu, quand on accompagne des gens, partout où il y a de l'innovation, bien, il y a des leaders qui sont là, qui sont en train de grandir. Qui sortent de la zone de confort. Tu sais, il n'y a rien de reposant avec l'innovation. Tu sais. Puis je me rends compte, tu sais, moi je pose plein de questions aux gens, pourquoi ils font ça, comment ils s'y prennent. Puis je me suis rendu compte que les gens, ça commence de l'intérieur de la personne. Tu sais. Ça commence par un désir, ça commence par une vision, ça commence par des idées, des échanges, des « Hey, ça serait-tu possible dans la boîte ou pas dans la boîte? » Tu sais. Puis ça serait-tu possible un podcast, toute la classe, trois filles du sud de la province?
Oui, ça se peut.
Ben oui, ça se peut. Mais tu sais, ça commence de là, ça commence en dedans, ça commence par la posture, puis de là, après ça, tout devient possible. Puis la magie se produit parce que des fois, on doute de ce qu'on est capable d'accomplir parce que quand on a une nouvelle idée, des fois, c'est pas clair. On ne sait pas trop comment ça va se produire. Puis ceux qui osent sortir de leur zone de confort, ben c'est magique parce que c'est là qu'on voit qu'on est capable. Souvent, on se surprend nous-mêmes. On est capable de faire des choses, on est capable de créer des choses qu'on pensait pas qui seraient possibles pour nous ou pour les autres autour de nous. Fait que c'est, je pense que la zone de confort, c'est dans ce sens-là. Puis, d'un autre côté, je pense que la zone de confort, c'est un mythe. Parce que quand on y pense, les gens qui choisissent de pas sortir de leur zone de confort sont pas si confortables que ça, tu sais, quand on y pense. Tu sais, si je suis dans le statu quo, puis je suis pas en train de grandir, on entend des mots comme ben je sens que j'ai plafonné ou j'ai besoin de nouveau dans ma vie. Ben le nouveau, on peut le créer chaque jour si on est innovant, qu'on sort de notre zone de confort. Tu sais, c'est pas nécessairement lié à un poste en particulier. Donc, tu sais, la zone de confort est vraiment pas confortable pour personne. Tu sais, si je reste là, ben ça, je suis pas en croissance. Puis si j'en sors, mais c'est pas confortable, mais au moins je grandis. Fait que, tu sais, c'est comme il y a personne qui reste, qui gagne à rester là. Tu sais. Je pense qu'il faut être je pense qu'il faut être en mouvement pour être bien, puis pour innover, puis pour progresser.
Et ce que vous venez de dire, ça me fait penser à l'idée de leadership. Que lorsqu'on a le sentiment d'avoir plafonné, peut-être que la prochaine étape serait un rôle de leadership. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ah, absolument.
Mais encore, le leadership, pour nous, c'est une posture. C'est tout le monde est un leader.
Ouais.
Donc, le leadership, c'est pas un rôle. Le leadership, c'est une posture que j'adopte au quotidien.
Mm-hmm.
Donc, pour nous, c'est vraiment important de dire que tout le monde, dans tous les niveaux du système, hey, l'élève peut être un leader.
Ouais.
C'est juste la façon que je me comporte au quotidien, les habitudes que j'adopte et comment j'influence les gens autour de moi positivement.
Absolument d'accord.
Ça commence par, tu sais, on le dit à l'écrit, ça se dit mieux, mais se diriger soi-même. Tu sais, en anglais, lead yourself, là. Et nos élèves, c'est des leaders. Tu sais, on se dit, j'ai hâte d'être plus grand, j'ai hâte d'avoir un poste puis d'avoir une équipe à diriger. Bien, le leadership, ça commence par faire sa chambre le matin.
Oui.
Puis de bien prendre soin de soi. Puis ensuite de ça, bien, faut donner une raison aux autres de vouloir nous suivre aussi. T'sais. Donc, ça part de nous. Mm-hmm. Donc, peu importe mon rôle, mon titre aussi, même si je n'ai pas de titre, je suis un élève. Le leadership, je peux l'exercer envers moi-même, puis ensuite de ça envers les autres.
Fait que pour revenir à la question initiale, je suis définitivement d'accord que si je sens que j'ai plafonné, la prochaine étape, c'est d'exercer mon leadership. Puis ça commencerait par me regarder moi-même et dire qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce plafonnement-là, puis me prendre en main pour grandir intentionnellement.
Ouais. Puis c'est exactement ça qu'on enseigne à nos élèves, n'est-ce pas, l'Inukshuk?
Mm-hmm.
La case en haut, là, se fixer des objectifs d'apprentissage personnel, justement, c'est pour repousser constamment le plafond, repousser ses limites. C'est un mode de vie.
Et prendre conscience de où on peut aller puis de voir les possibilités, un peu comme je disais tantôt, là, ce mot-là, moi, m'inspire beaucoup parce que souvent, quand on reste là, on les voit pas. Donc, si on se fixe des objectifs, on peut voir les possibilités puis on peut s'y rendre.
Oui.
Et vous travaillez généralement, non seulement avec des leaders pédagogiques, des CP, des directions, des surintendances, mais aussi avec les enseignants en salle de classe. Comment est-ce que vous aimeriez que votre influence se fasse sentir auprès des enseignants et ensuite par les élèves?
Bien, la première chose que je dirais, c'est que chaque personne se considère comme un leader pédagogique.
Mm-hmm.
Parce que dans notre tête, à nous, tout le monde en est un.
Oui.
Qu'on soit de près ou de loin responsable d'un élève, si je suis responsable de l'apprentissage des autres autour de moi, je suis un leader pédagogique.
Et ce leadership, bien, on parle de la zone de confort aussi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut amener les enseignants et les élèves à sortir de leur zone de confort?
Moi, je pense que vous avez une personne très inspirante dans votre équipe élargie qui est peut-être pas avec nous aujourd'hui, mais Nicole...
Stogiatis.
Oui,
qui enseigne explicitement à ses élèves ce que c'est la mentalité de croissance. Dans le fond, la mentalité de croissance, c'est une posture. Croire que je peux m'améliorer. Donc, si je le crois, mais ensuite de ça, je passe à l'action puis je relève mes défis et je n'arrête pas. J'apprends, je fournis de l'effort, j'utilise des stratégies, je fais appel à l'aide des autres, puis je suis en mouvement. Donc, elle l'enseigne. Donc, je pense que la meilleure façon de créer ce contexte-là, c'est d'en parler, de mettre des mots sur ce que c'est. Au-delà de dire zone de confort, bien, qu'est-ce que ça implique? S'améliorer.
Oui, et c'est important qu'on peut mettre plusieurs mots sur la même idée. La zone de confort, sortir de la zone de confort, la mentalité de croissance. Et dans quelques minutes, on va vous demander de parler un peu de votre loi de l'élastique qui nous a beaucoup inspiré aussi. Mais lorsqu'on met des mots sur ça puis qu'on peut le rendre explicite avec les élèves, c'est beaucoup plus facile de le faire.
Oui.
On le fait avec les élèves, mais on le fait quand on est en communauté d'apprentissage professionnel, entre collègues, si on est en train d'essayer d'amener des nouvelles pratiques pédagogiques dans notre école. Ça nous prend la même mentalité. Ça demande de l'effort à tout le monde. Ça demande peut-être d'accepter que ce ne sera pas parfait au début. Mm-hmm. Ça demande de parler de nos stratégies, les nommer. Ça demande de s'entraider. On applique les mêmes principes à ce niveau-là.
Puis je pense que qu'est-ce qui est clair dans ma tête, c'est que nous, ce qu'on croit beaucoup, ce qu'on prend beaucoup dans nos accompagnements avec les enseignants, c'est de prendre la posture de coach. Donc, comment est-ce que le coaching peut prendre plus de place dans ma salle de classe? Puis, je veux dire, je pense que c'est très difficile de demander à quelqu'un de sortir de sa zone de confort ou de développer une mentalité de croissance si on ne réalise pas qu'on peut changer nos lunettes puis vraiment jouer ce rôle de coach-là plus souvent en salle de classe avec l'élève, de vraiment développer ce partenariat éducatif-là, de poser des bonnes questions, de faire réfléchir l'élève, de développer la pensée critique. Je pense que ça, c'est des conditions essentielles pour avoir un terrain fertile où les gens vont avoir le goût de développer leur mentalité de croissance puis de prendre des risques puis de sortir de leur pantoufle confortable. C'est non négociable.
J'adore ça, je me pose la question parce que nous aussi, on joue en tant que... On intervient en tant que coach avec les enseignants. Comment on sait que l'enseignant avec qui on est en train de travailler est prêt pour tout ça? Est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce qu'on peut avoir comme des symptômes qui nous disent « oui, je suis pas allé plus loin
». Bonne question.
Comment on le sait?
Moi, je pense que si on a déjà le privilège de travailler avec quelqu'un qui sait qu'il est coaché, qui est dans une relation de coach et coaché,
ouais.
Je pense que la personne est déjà prête. Mm-hmm. À mon avis, le terrain est déjà il est très fertile.
Mm-hmm. Moi, de mon côté, il y a Carol Dweck dans son livre Mindset qui parle de deux choses qui sont super importantes pour développer sa mentalité de croissance. C'est la relation qu'on a avec l'erreur et la relation qu'on a avec l'effort. Si les gens ont peur de l'effort et si les gens ont peur de faire des erreurs, en partant, c'est signe d'une mentalité qui est plus fixe, puis c'est signe qu'on a du chemin à faire pour justement se rendre à cette étape-là de mentalité de croissance. Donc, si on pose des questions rapides par rapport à la relation qu'on a avec l'effort, puis avec l'erreur, on peut savoir assez rapidement où la personne est rendue dans son cheminement, puis de l'amener à se rendre vulnérable, puis un mot que j'aime bien dire ou j'aime bien dans mes accompagnements, faire en sorte que les gens se mettent dans un état de vulnérabilité devant leurs élèves ou de peu importe où ils sont dans le système, mais des fois, c'est payant d'être vulnérable. Puis quand nos élèves voient qu'on est des humains normaux, puis qu'on fait des erreurs, puis que c'est correct qu'on apprend avec eux, pas juste on fait pas juste leur montrer des choses, mais on s'inspire d'eux, on apprend d'eux, bien, si on est capable de se rendre là avec les enseignants qu'on accompagne, puis de se rendre vulnérable, même devant les élèves, mais on a gagné beaucoup de points.
Depuis tantôt, j'essaie de réfléchir à ta question, qui était une excellente question.
Mm-hmm.
Je me dis, comment on sait si une personne est prête à être coachée? Je pense que dans notre posture...
Ou à prendre un risque.
Oui, mais dans notre approche, je pense, nous, on a une approche automatiquement en coaching. On pose des questions, on arrive rarement avec une recette.
Mm-hmm.
Rarement, c'est pas notre approche. On pose des questions. Donc, en partant, c'est de présupposer que la personne a déjà les réponses dont elle a besoin. C'est juste par le questionnement de l'amener là, mais dans l'écoute,
mm-hmm.
parce que l'idée, c'est qu'on est là pour écouter quand on accompagne. Si j'écoute puis j'entends qu'une personne, par son non-verbal, par ce qu'elle me dit, par ce qu'elle me raconte, si je vois que la personne ne croit pas qu'elle est capable d'améliorer les choses dans son milieu, ma tâche à moi, c'est de semer le doute puis d'amener la personne à peut-être considérer qu'elle serait capable.
Intéressant.
Parce que
c'est vraiment le cas.
Parce que, puis si la personne croit qu'elle est capable, dans ce qu'elle me dit, ce qu'elle me raconte et tout ça, puis je vois qu'il y a une mentalité qui est de croissance, dans le sens, là, ma tâche, c'est de l'amener à faire son plus petit pas, le prochain pas, puis de passer à l'action. Parce que si on reste dans les idées, il n'y a rien qui change, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Les possibilités, c'est dans l'action que ça se passe. Donc, moi, j'irais comme ça, le coach, c'est juste d'être à l'écoute. Est-ce que la personne croit qu'elle est capable de réussir? Puis sinon, qu'est-ce que je peux faire pour l'amener à croire qu'elle est capable? Puis quand on veut convaincre les gens, des fois, c'est pas avec les mots, c'est en leur faisant vivre des expériences positives, des réussites. Donc, c'est de faciliter ça, puis de les accompagner peut-être, d'offrir, hein, vous allez en classe avec les gens, est-ce qu'on peut co-enseigner? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? T'sais, on facilite.
On se partage le risque.
Ouais. Voir que c'est à montrer que c'est à la portée.
Mm-hmm.
Puis, de là, ça ouvre la porte au coaching puis à cette relation-là, je pense.
Oui, c'est un processus.
Quand on se rend là, la réponse comme à 99,9% du temps, la réponse c'est « Hey, c'était pas si pire que ça finalement, puis on s'en tente encore. »
Let's go! Donc, quand est-ce qu'on ressort?
Ouais, ouais. Ouais.
Puis c'est vraiment un processus qui continue là, ça s'arrête pas. On retourne toujours à en guillemets, l'étape initiale, mais c'est pas, il y a pas une étape qui vient avant l'autre, qui vient après l'autre. Alors,
est-ce que je peux ajouter à ça, parce qu'il y a une couche importante à ça, c'est l'accompagnateur ou l'accompagnatrice là-dedans, elle, comment elle se sent là-dedans? Parce que nous, on est là pour amener, nous, quand je dis nous, c'est n'importe qui a le rôle d'accompagner quelqu'un d'autre. On est là pour amener un changement positif dans la vie de l'autre qu'on accompagne. Quand la personne n'est pas ouverte au changement ou elle ne croit pas qu'elle peut réussir, il ne faut pas le prendre personnel. Ça n'a pas rapport avec nous. Ça n'a pas rapport avec la qualité d'accompagnateur que nous sommes. Notre rôle à ce moment-là, c'est vraiment de respecter le processus que la personne a besoin de vivre pour être en mouvement, pour croire en elle qu'elle est capable. Puis comment on peut créer ces conditions-là? Il n'y a pas de baguette magique pour ça. Parfois, ça prend du temps. mais ça n'a pas rapport avec mm-hmm. nous. Non, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Là. Je pense que c'est comme important parce que comme accompagnateur, on a comme la tâche, c'est dans notre description de tâche, d'amener le changement puis de l'accompagner. Mais il y a des choses qui, parfois, c'est payant pour les relations humaines de ne pas trop être exigeant envers soi-même puis pas trop pousser. Il y a des gens qui ont besoin de temps avant de passer à l'action.
Oui, mm-hmm. ouais. Avoir l'équilibre un petit peu là, entre eux et nous là aussi.
Ouais, ça, c'est plus un art qu'une science, je dois vous avouer, mais c'est notre vécu, je pense.
Mmh, intéressant. Alors, comme Jen avait dit tantôt, on allait parler un petit peu de la loi de l'élastique. Est-ce que vous avez des principes clés préférés de votre accompagnement? Alors, on a couvert un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres principes que vous utilisez quotidiennement ou vous aimez beaucoup?
Mais moi, pour faire du pouce sur ce que Marius a dit au niveau de comment aider quelqu'un à croire qu'elle est capable, je pense même avant la loi de l'élastique, qui est la loi de John C. Maxwell, moi, j'aime la loi du miroir. Puis Marius me l'a souvent, pas mis dans la face, mais me fait remarquer des fois que j'avais vécu des accompagnements peut-être plus difficiles. Puis ça, je parle là, dans l'équipe tactique, là, dans mes débuts de rôle d'accompagnatrice, où je perçais moins avec des gens, puis les gens étaient peut-être plus réticents. Puis la loi du miroir dit tout simplement que pour m'ajouter de la valeur, je dois me voir de la valeur. Donc, quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je crois que je peux m'ajouter de la valeur? Si à la base, la réponse est non, c'est difficile d'être ouvert à changer, à être accompagné, de vivre un processus avec quelqu'un. Ça revient vraiment à la base, puis je l'applique autant à moi-même, donc de me regarder dans le miroir et croire que je suis capable, mais quand je vis des moments avec des gens que j'accompagne, de pas le prendre personnel quand il y a de la réticence, de me dire « cette personne-là, en ce moment, elle ne voit pas qu'elle est capable de s'ajouter la valeur. Donc, comment est-ce que je peux l'aider par le coaching à avoir sa propre valeur? Comment ouais. je peux ouais. l'aider là-dedans avant même de me rendre à l'élastique qui est de sortir de sa zone de confort?
Ouais.
Donc, pour moi, ce principe-là est vraiment venu changer mon comment je vois l'accompagnement, que c'est le principe de base. Que cette personne-là, quand elle s'est levée ce matin, qu'est-ce qu'elle a vu dans le miroir? Puis si c'est pas très positif, bien, ma job, c'est de l'aider à le voir le positif avant d'aller ailleurs.
Mm. Marie-Andrée, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur certaines stratégies que tu as déjà utilisées pour ce faire?
Bien, c'est tout simplement le questionnement jasé avec cette personne-là. Parce que souvent, puis si je mets ça dans le contexte d'accompagner un enseignant, ils vont me dire qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas très innovant, puis il parle à la jasette, par les discussions, par mon questionnement, de faire réaliser à cette personne-là qu'en réalité, elle est capable. Elle fait des choses qui sont innovantes, c'est juste qu'elle ne les considère pas innovantes. Elle se compare aux autres. Donc, c'est souvent des stratégies de questionnement et des bonnes discussions, puis d'être à l'écoute de la personne, d'être empathique. Tout part des relations, donc vraiment de bâtir cette relation-là avec cette personne-là. Puis des fois, ça peut prendre un bon bout de temps avant même de se rendre en salle de classe parce que c'est ça sur quoi je dois mettre de l'énergie avec cette personne-là, c'est de développer ce lien-là, cette confiance-là, puis de l'amener à réaliser qu'elle a de la valeur, qu'elle peut sortir de sa zone de confort parce que c'est aussi une question de confiance.
Bien, j'aime ça et ça me fait penser aussi au fait que parfois, comme coach, on arrive avec des idées mm-hmm. qui viennent peut-être de notre mandat avec tactique,
oui.
notre mandat avec le conseil, qu'on a oui. quelque chose à leur offrir et qu'ils oui. vont être convaincus tout de suite que ce qu'on a à offrir, ça a de la valeur.
Mm-hmm.
Il faut non seulement leur rendre compte du fait qu'ils ont de la valeur, mais aussi qu'ils oui. ont des besoins.
Oui,
il y a quelque chose qui pourrait être plus efficace ou plus utile ou plus rapide ou leur faciliter la vie dans leur salle de classe. Alors, est-ce que tu trouves que c'est aussi pertinent de poser des questions pour voir quel est le besoin le plus pressant dans leur salle de classe?
Oh, absolument, c'est une des questions, dans les trois premières questions que je pose en tant que coach, c'est le besoin part de où? Puis ça fait partie de cette discussion-là. Puis en passant, toutes ces questions-là, là, on peut les appliquer avec travailler avec un élève, là, parce que l'élève vit la loi du miroir lui aussi. Là, il ne s'est pas levé ce matin et puis s'est pas dit qu'il voulait être particulièrement poche. Tout le monde veut connaître du succès, donc, mais des fois, c'est dur de voir que je suis capable d'atteindre. Donc oui, absolument. Quels sont les besoins? C'est souvent une excellente question pour cibler les prochaines étapes puis faire en sorte que la personne puisse voir qu'elle est capable.
Excellent. Marie, est-ce que je pourrais te demander de parler un petit peu de la loi de l'élastique? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tu sais, le genre de mouvement cette année, en début d'année, qui était le mouvement un mot, où c'est un mot pour les motiver pour l'année, les encourager, les faire réfléchir. Et le mien, ça venait de cette idée de la loi de l'élastique. Alors, le mien, c'était le mot « stretching ». Alors, j'ai toujours été être en train de m'étirer, d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer les étapes de la loi de l'élastique?
Ah, absolument. Écoute, la loi de l'élastique, quand j'ai lu ça des 15 lois de John Maxwell, les lois de la croissance, celle-là m'a parlé vraiment beaucoup parce que, selon John Maxwell, cette loi-là, ce qu'elle veut dire, c'est que si la tension entre où je suis et où je pourrais être, si je perds la tension, en d'autres mots, si l'élastique n'est pas étiré, mais je ne suis pas en croissance. En d'autres mots, dans nos écoles, on a des plans d'amélioration. L'amélioration continue, ça veut dire qu'il faut étirer l'élastique tout le temps, chaque année. Donc, si l'élastique n'est pas étiré, je ne suis pas en train d'améliorer les choses nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on veut péter l'élastique. Il ne faut pas qu'il soit... Tu sais, puis chacun a son élastique. Là.
Sa rigidité.
Oui. Tu sais, il y en a que c'est juste un petit peu, c'est correct. Il y en a d'autres, c'est... Non, moi, j'aime ça quand c'est beaucoup. Ça, il faut respecter ça. Mais les étapes que j'avais associées à ça par après, en y pensant, je me suis dit, c'est les quatre premières étapes quand on fait le coach à 360.
Mm-hmm.
Pour sortir de sa zone de confort, c'est bien beau de parler des idées. Tantôt, tu parlais des possibilités. Mais si on reste dans les idées, on reste dans notre tête, il n'y a rien qui change. Donc, la première étape, c'est la zone de confort. Je suis confortablement confortable. Mais là, ensuite de ça, j'ai une idée. Quelqu'un me parle de quelque chose. J'ai un désir. J'ai envie de... Peut-être que c'est la loi du miroir. Maintenant, j'y crois. Mm-hmm. Je le voyais pas, là, je le vois. Je vois que je pourrais réussir. Là, je deviens inconfortablement confortable. En d'autres mots, je suis plus confortable de rester à faire ce que je fais présentement. Je pense qu'il faudrait que je change quelque chose. Puis ça, parfois, on reste dans cet état-là longtemps, là, avant de passer à l'action. Tu sais. Mm-hmm. On reste dans le « il faudrait ». Lundi prochain, ah non, peut-être pas lundi prochain, mais l'autre après, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Puis là, à un moment donné, c'est là que l'accompagnement puis le rôle de l'accompagnateur peut aider à passer à l'action. Là, je passe à la troisième étape qui est « je deviens inconfortablement inconfortable. Là, j'essaie une nouvelle chose. Je me lance. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais que ça fonctionne ou non dans ma classe ou dans mon rôle, je ne serai pas confortable. Je ne sens pas que je suis en train de faire quelque chose puis que j'ai l'expertise nécessairement. Tu sais, la première fois qu'on utilise une stratégie d'animation, on la teste. La première fois qu'on essaie un nouvel outil technologique, on l'essaye. On est en train de le faire présentement. On explore un nouvel outil pour gérer nos projets. Puis ça nous sort de notre zone de confort, mais on y va, n'est-ce pas? Ça, c'est inconfortablement inconfortable. Puis au fur et à mesure qu'on avance, la quatrième étape, c'est l'idée qui est dans le fond la posture. La posture, c'est d'être confortablement inconfortable. En autre mot, d'être confortable avec l'idée d'être étiré.
J'adore ça.
Donc, si toi, tu as choisi le mot « stretching », c'est parce que tu es confortable avec l'idée d'être en amélioration continue, d'être étiré. Puis
l'imperfection, l'échec, l'erreur, l'apprentissage.
On pourrait le dire que c'est comme un cycle, parce que c'est pas nécessairement linéaire, comme je l'avais mis dans une diapo.
Oui.
Ça recommence. À un moment donné, la nouvelle pratique, elle devient confortable, puis j'ai besoin de m'étirer à nouveau. Tu sais, c'est jamais fini.
Et je pense qu'il faut faire un lien entre s'étirer de façon professionnelle et ce que Marie-André avait mentionné ce matin, elle avait fait de l'entraînement. Puis lorsqu'on commence à faire de l'exercice de l'entraînement, on ne l'aime pas. Mais
non.
On commence à s'habituer à être inconfortable lors des séances d'entraînement et ça devient une habitude. Oui. C'est intéressant de voir ces connexions-là. Alors, j'ai une dernière question pour vous et j'aimerais poser cette question à Stéphane parce que j'ai trouvé ça intéressant que tu avais parlé d'être formateur industriel et puis de travailler avec les enseignants puis les élèves EED. J'aimerais te demander, Stéphane, si tu vois des parallèles entre le leader, l'enseignant, l'élève et les gens de l'extérieur, les gens dans le monde de l'industrie, et le courage d'oser de faire quelque chose de différent.
Bien, c'est drôle parce que le parallèle, c'est avec la zone de confort un petit peu. Là. Dans le sens où la plus grande réticence à apporter des changements ou à oser faire des changements, c'est ce que j'observe autant en accompagnement scolaire que dans mon passé industriel, c'est la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas bien faire ou de ne pas faire comme on devrait faire. Puis, ce que j'aime beaucoup prendre comme approche dans mes accompagnements, c'est vraiment apporter l'idée de la vulnérabilité. Je vous donne un exemple qui peut sembler très banal. J'ai accompagné une prof à un moment donné qui n'utilisait pas Classroom parce qu'elle avait peur d'utiliser Classroom. Elle avait peur parce qu'elle n'était pas très techno. Puis, je l'ai accompagnée avec ses élèves en difficulté. Puis, on a décidé de créer un Classroom directement devant les élèves dans sa classe. Puis, j'ai dit, hey, on essaye ça. Puis, j'ai posé la question aux élèves, est-ce que vous utilisez Classroom dans d'autres cours? Puis, il y a plusieurs élèves qui ont dit oui. À ce moment-là, on a affiché Classroom, on a créé le cours devant eux, puis c'est les élèves qui nous disaient un peu quoi faire, puis comment mettre les devoirs, puis quoi mettre en attachement pour qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils reçoivent comme demande, puis tout ça. Puis la prof était à côté de moi, puis elle regardait ça aller, puis elle n'avait pas compris à quel point ses élèves en connaissaient sur plein de sujets, même s'ils étaient en difficulté. Puis elle s'était jamais rendue vulnérable au point de vraiment donner une voix à ses élèves, puis vraiment se mettre dans une posture de « Hey, je peux apprendre d'eux autres », puis une posture d'apprenant à tous les niveaux. Tu sais, les élèves sont apprenants, mais nous, en tant que prof, on est apprenants aussi. Puis que ce soit dans l'industrie, que ce soit comme un leader, une direction, que ce soit un élève, quand on se met vraiment dans une posture, volontairement une posture d'apprenant, bien, c'est là qu'on est capable d'accomplir plein de belles choses ensemble. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la personne la plus importante, ou la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est la pièce. Donc, souvent, on veut mettre en valeur les gens qui sont là. Puis je pense que peu importe l'approche qu'on prend, je pense que c'est vraiment ça qui est important, autant en accompagnement qu'en enseignement purement. Donc, vraiment mettre l'emphase sur les personnes. Puis, on dit dans le coach que les élèves ou même les profs, ce n'est pas des vases vides à remplir. Hein. Tout le monde a des connaissances, tout le monde a des compétences, donc on veut exploiter ça.
C'est intéressant parce qu'on nous dit lorsqu'on commence à travailler avec des adultes que c'est différent, qu'il faut faire autrement. Et jusqu'à un certain point, mais en réalité, les relations qu'on crée avec les adultes, les enseignants, les coachs avec qui on travaille, il y a certains fondements qui sont pareils comme les relations qu'on a créées avec nos élèves.
Oui. Puis, si je peux ajouter à ça, on dit souvent que les gens n'apprennent pas d'une personne auquel ils sont indifférents.
Mm-hmm.
Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, ou ça va plus loin que ça, là, si tu es indifférent par rapport à une personne, tu n'apprendras pas de cette personne-là. C'est la même chose en accompagnement. Quand tu veux accompagner quelqu'un, si la personne est indifférente à ton égard, ben il faut que ça parte de là, il faut que ça parte des relations. Marie en a parlé un petit peu tantôt. Le lien que tu crées avec la personne que tu accompagnes, que ce soit tes élèves ou en tant que conseiller pédagogique ou accompagnateur d'adultes ou en tant que direction d'école, le lien à créer pour que la personne ait envie de te suivre, ait envie de naviguer avec toi, ait envie de cheminer avec toi, il est super important. Puis des fois, ça prend 1, 2, 3, 5 rencontres avant que ça débloque, mais ça prend les relations. Puis c'est la base de tout, là, l'aspect humain. On en a parlé.
C'est la vulnérabilité qui va venir de nous aussi. Ça aide à créer des liens, non seulement entre l'enseignant et l'élève, mais entre le coach et l'enseignant.
Absolument. Ouais. Notre plus grand défi dans tout ça, c'est le temps. Hein, c'est la boîte, c'est de dire on veut des résultats rapidement, ou même en salle de classe, je suis limitée dans mes 190 jours. Ouais. Mais c'est de vraiment faire de la planif intentionnelle puis d'utiliser tous les moments pour bâtir ces liens-là.
J'adore tout ce qu'on vient d'écouter, c'est vraiment génial. Merci d'avoir été parmi nous pour nous donner envie de sortir de notre zone de confort. Ça a été un plaisir de discuter avec vous ce matin et on veut vous assurer que cette année, c'était hashtag notre meilleure année à date.
Yes! Excellent!
Restez à l'affût parce que la prochaine, ça va être aussi la meilleure année à date. Il va y avoir plein de belles choses qui s'en viennent de notre part. Puis,
on vous réserve des belles surprises.
Ouais,
mais profitez de vos vacances avant.
Ouais, absolument.
Ça tombe bien, on adore les surprises et on adore les vacances.
On se revoit l'année prochaine.
Yeah.
Merci beaucoup, les filles.
Merci beaucoup.
Bonjour à toute la France.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!